j'invite à retrouver un titre dans vos Bibles, quelque part vers la fin. Et merci pour la lettre. Alors, qui est Tite? Tite fait partie de l'équipe de Paul, de l'apôtre Paul. Donc, il fait partie de son équipe missionnaire. Paul et lui, et sans doute d'autres encore, viennent de faire une mission sur l'île de Crète. Voilà, c'est une grande île. Peut-être que vous êtes déjà parti là-bas en vacances. Moi, je suis allé peut-être il y a 6 ans à peu près. C'est très bien. Et pendant cette mission, Paul et Tite ont implanté plusieurs églises. Et Tite est au service de ce réseau d'églises qui a vu le jour, qui a été implanté là-bas. Et comme on le voit au verset 5, Paul lui a confié une mission toute particulière. Verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Un ancien, c'est la même chose qu'un évêque, de ça c'est ce qu'on voit dans le verset 7, c'est la même chose qu'un pasteur. Donc c'est un sujet qui n'est pas sans intérêt pour notre église. Nous sommes une église nouvellement implantée et à la prochaine assemblée générale, on va aussi nous pencher sur cette question de nos anciens, de nos dirigeants. Donc ce passage est d'une pertinence toute particulière. Mais il faut savoir que la lettre qu'on va étudier dans les mois à venir parle de beaucoup plus que simplement cette question de responsables. Il faut des responsables, mais la lettre parle de beaucoup plus que cela. Cette lettre nous concerne tous. Nous allons voir que ce que Paul veut, c'est un christianisme qui marche, qui fonctionne. Et deuxièmement, pour cela, pour que ça marche, il faut des anciens qui marchent selon Dieu. Et troisièmement, nous allons voir que ces anciens, ces responsables, doivent être prêts à réfuter ceux qui s'opposent ou qui ne marchent pas selon Dieu, qui s'opposent au message de la Bible. Voilà donc les trois parties de notre message de cet après-midi. Beaucoup d'églises, de par le monde, ont été secouées par des scandales de tout type. Il y a eu des scandales de financement, de corruption, de meurtre, même de pédophilie. Et à chaque fois qu'il y a un scandale qui s'éclate, la presse se roule sur la personne en question. Comment est-ce qu'un évêque, comment est-ce qu'un pasteur a pu faire ça? Parce que même le monde a des exigences. Lorsqu'un chrétien, et surtout quand un leader chrétien défaille, lorsqu'il trahit un peu la confiance qui est passée en lui, bah, à juste titre, les gens, n'importe qui, tout le monde est scandalisé. Et l'évangile est traîné dans la boue. Car tout le monde s'attend à ce que le message de notre foi fasse une différence dans notre vie. Une différence profonde. En tout cas, l'apôtre Paul est convaincu que le message de Jésus-Christ doit bouleverser notre vie et changer notre façon de vivre. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un perfectionnisme légaliste. Selon Paul, c'est le message de la grâce, ce pardon gratuit en Jésus-Christ. C'est ce pardon qui change concrètement les choses. C'est cette grâce qui nous aide à mener une vie bonne, une vie qui est réussie aux yeux de Dieu, une vie qui plaît à Dieu, une vie pieuse, on peut le dire comme ça, ou une vie qui se passionne pour les belles œuvres. Et ça, c'est le but de cette lettre. Paul veut voir tout cela sur cette île de Crète. Donc, il le dit à plusieurs fois dans cette lettre. Donc, par exemple, chapitre 3, verset 8. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Paul, l'apôtre Paul, il veut voir des églises un peu partout sur cette île où la vie chrétienne est vécue de manière authentique, une vie chrétienne qui plaise à Dieu, qui plaît à Dieu. Il veut voir ça sur l'île de Crète, mais il veut voir ça aussi en banlieue parisienne. C'est ce que Dieu veut. En fait, c'est ce que Dieu a toujours voulu dès le départ. Une planète bleue, peuplée de gens qui l'aiment, qui respectent sa parole et qui aiment son prochain comme lui-même, créé en image de Dieu, son prochain. Alors, mais comment y arriver? Qu'est-ce que Paul va nous dire pour nous aider? Ben, revenons au chapitre 1. Donc voilà, une partie. Donc ça a l'air un peu complexe, mais on va y arriver. Donc la façon que Paul commence cette lettre ressemble beaucoup plus à nos emails que nos lettres traditionnelles. Paul commence au verset 1 en disant que de qui la lettre vient, donc de Paul. Et au verset 4, un petit peu plus tard, il nous dit qui est le destinataire de sa lettre, donc Tite. Et ensuite, entre les deux, on ne voit pas Tite en fait, mais c'est juste le verset après. Et au milieu, nous avons un peu l'objet de la lettre. Qu'est-ce qu'il dit à Tite? Paul est un apôtre de Jésus-Christ, selon la foi, pour la foi des élus de Dieu, et pour la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, c'est-à-dire selon une vie qui plaît à Dieu. Donc il est là pour la foi des chrétiens, pour les enseigner, pour leur faire du bien au niveau de la foi. Et cette connaissance de la foi, de la vérité, de l'évangile, conduit vers une vie qui plaît à Dieu. Paul dit en quelque sorte, on ne peut avoir l'un sans l'autre. Le message authentique de Jésus-Christ, ce message de la grâce, du pardon, bah, ce message porte du fruit, inéluctablement. Il donne naissance à une vie nouvelle, une vie de justice, d'amour, de paix. Ensuite, cette foi, cette connaissance de l'évangile, donc verset 2, repose sur l'espérance de la vie éternelle. C'est vrai que si nous n'avions pas d'espoir, si notre vie devait se terminer simplement avec cette vie, s'il n'y avait rien de plus, ouais, autant simplement profiter du jour présent, autant manger, boire et faire la fête. À quoi ça sert de se discipliner s'il n'y a pas de demain? S'il n'y a pas un Dieu qui nous tient responsable pour nos actes? Mais du moment que nous avons une espérance vivante, une espérance fondée et sûre, cette espérance d'une vie passée avec Dieu, ça va changer notre comportement. Ça nous conduit inévitablement à vivre autrement, à vivre selon les consignes de notre Créateur, vivre selon les consignes de celui qui nous a sauvés. On dit par exemple, ma sœur va se marier la semaine prochaine. Donc ça fait des mois que ma sœur prépare cet événement. Et son espérance est basée sur les promesses de son fiancé. Donc, j'espère qu'il va rester fidèle à ses promesses. Donc, j'ai déjà acheté mon billet d'avion. Donc, et ces promesses de son fiancé, déterminent le comportement de ma sœur. Est-ce qu'il prépare depuis des mois? Lui aussi d'ailleurs. Mais d'où vient notre confiance? Qu'est-ce qui nous pousse, nous, à nous préparer, d'être si sûr? Donc, verset 2. Cette vie éternelle a été promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Dieu n'a pas caché ce qu'il va faire. Et on voit qu'il l'a manifesté, qu'il l'a rendu public. Il l'a dit partout. Où ça? Où est-ce qu'on peut trouver ces promesses? S'agit-il de faire des exercices de méditation pour trouver ça dans notre foi intérieure ou de prendre des cours de yoga? Faut-il pratiquer des rites spirituels pour discerner ses promesses dans la nature? Non. La Bible nous dit que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Le Dieu qui nous a créés, qui nous a dotés de la capacité de parler, d'écrire, il nous a parlé. Comme ça, merci toi. On s'attendrait à ce que Paul dise qu'il a parlé en Jésus. Mais là, c'est marqué verset 3, par manifester sa parole par la prédication, j'ai une autre version, qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Dieu se manifeste par la prédication de l'apôtre Paul, en fait par le message apostolique. Bien sûr, ce message est basé sur la révélation de Jésus-Christ, la vie et le ministère de Jésus. Et pour nous, tout comme les chrétiens à Crète, nous ne sommes pas les témoins oculaires de la vie de Jésus. Nous n'avons pas la présence d'un apôtre ici. Mais nous avons la Bible, nous avons le message apostolique, le message tel que nous le trouvons dans la Bible. Et c'est ce message qui nous a amenés à mettre notre foi en Jésus. Dieu l'a manifesté à nous par la prédication des apôtres. C'est cette parole des apôtres qui nous donne un espoir, une espérance de la vie à venir, de la vie éternelle. Et c'est cette parole qui porte, qui fait que nous portions du fruit. La proclamation de la parole, semaine après semaine, qui forme en quelque sorte, c'est un peu comme le carburant de la vie chrétienne, qui motorise cette vie qui plaît à Dieu. Dans un mois, François va parler de comment ça se marche, comment ça marche concrètement, comment ce carburant se met en œuvre. Voilà, dans cette deuxième partie, il faut les leaders qui marchent selon Dieu, les anciens. Paul ne demande pas à Tite de nommer un seul chef, un patron, mais il lui demande de nommer des anciens dans chaque pays, une pluralité d'anciens dans chaque église. Et cette idée d'une pluralité de dirigeants, de responsables, d'anciens, c'est quelque chose qui est répété à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. C'est une tâche qui est lourde, et donc c'est une tâche qui convient de partager. C'est vrai, peut-être d'un point de vue très pragmatique, le fait d'avoir plusieurs responsables, d'avoir un collège d'anciens, ça peut parfois ralentir les choses. Il faut arriver à un consensus, ça prend du temps. Mais le fait d'en avoir plusieurs, ça peut aussi nous protéger d'une personnalité trop forte, trop dominante, ou les décisions qui sont prises trop passivement, peu réfléchies. Bien sûr, nous n'avons pas quelqu'un comme Tite ici à la Garenne. Nous n'avons pas quelqu'un comme Tite qui peut venir, qui peut nommer des anciens. Il n'y a pas l'apôtre Paul, il n'y a pas une équipe apostolique. Mais nous avons les paroles de l'apôtre Paul, nous avons la Bible. Donc c'est l'Église elle-même qui va choisir ses propres leaders, ses propres anciens. Même si fondamentalement, en fait, c'est la parole qui les choisit, si on peut le dire comme ça. C'est la parole qui sert de filtre. Et nous, en tant qu'Église, nous devons suivre les instructions de Paul, comme ce que nous voyons ici dans ce passage. Et c'est ainsi que Christ va gouverner sa parole, son Église, par sa parole. Alors, on va voir ce qui caractérise un ancien, selon Paul. Je pense que si on pense sur ce passage, on voit qu'il y a plus ou moins deux grandes choses. La première chose concerne la vie d'un ancien. Il faut qu'un ancien soit un chrétien qui vit en conformité avec ce qu'il croit. Il faut, sa vie est importante. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il soit quelqu'un qui soit attaché à l'enseignement authentique des apôtres, et qui soit capable de l'enseigner à d'autres de manière positive pour encourager l'Église, mais aussi de manière négative pour réfuter ceux qui s'y opposent. On a dit que la parole des apôtres, c'est ce qui nous donne un espoir, une espérance de la vie à venir, de la vie éternelle, et c'est ça qui va faire en sorte que nous portons du fruit. Et donc, il faut que ça soit d'autant plus vrai dans la vie de nos responsables. Comment peut-il enseigner d'autres si l'évangile de la grâce n'a pas commencé à faire une œuvre dans sa propre vie? On commence d'abord avec sa vie de famille. Il faut qu'un ancien soit sans reproche. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit parfait à tous égards. Personne n'est parfait, il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais sans reproche. Il ne faut pas qu'il soit exposé à des critiques justifiées, le sujet de critiques ou de scandales à cause de la vie qu'il mène. C'est marqué ici qu'il faut qu'il soit le mari d'une seule femme, c'est-à-dire fidèle à son épouse. C'est logique, s'il va servir l'épouse du Christ, voilà, il faut qu'il soit fidèle. Je ne pense pas qu'il faille être un homme marié, avec des enfants pour être ancien. C'est peu probable dans ce passage que Paul veut exclure les célibataires, les veufs ou les hommes mariés qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'il parle ensuite de ses enfants. On sait que Paul lui-même est un célibataire, comme Jésus d'ailleurs. Mais les célibataires et les veufs ou les divorcés, certains divorcés, sont quand même mener une vie sans reproche dans ce domaine. La pureté sexuelle est importante. La référence aux enfants des anciens, je ne pense pas que ça se réfère aux enfants qui ont déjà grandi, qui ont déjà quitté la maison, mais vraiment les enfants qui sont là à la maison. Il faut qu'ils ont eux aussi un comportement qui plaise à Dieu, qui ne va pas causer un scandale. Car un ancien est aussi un intendant de la maison de Dieu, c'est marqué. Donc à juste titre, s'il doit s'occuper de la maison de Dieu, il faut qu'il soit capable de s'occuper de sa propre maison. Ensuite, Paul liste d'autres qualités. Ces qualités, il s'agit des qualités que devrait caractériser chaque chrétien. Il faut qu'il soit un chrétien authentique. Qu'il ne soit ni arrogant, donc c'est quelqu'un qui doit être un serviteur, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté un gain honteux. Donc, est-ce que cette personne a un rapport sain à l'argent, mais qu'il soit hospitalier, donc c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à accueillir les étrangers, les gens qui sont dans le besoin, ami des gens de bien. Donc, poser la question, qu'est-ce qu'il fréquente ? Quelles sont ses fréquentations ? Modéré, juste, sain, tempérant. Il s'agit de quelqu'un qui n'est pas forcément parfait, mais qui a déjà fait quelques progrès dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui a déjà quelques acquis au niveau de la sainteté personnelle. Il faut qu'il soit en quelque sorte un modèle de quelqu'un qui s'efforce à aller plus loin dans la sainteté personnelle. Et finalement, il faut qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Voilà, ce n'est pas un innovateur, mais quelqu'un qui reste fidèle à ce que la Bible enseigne. C'est quelqu'un qui ne doit pas diluer son message pour le rendre plus agréable. Je pense que c'est bien de prier pour les gens qui enseignent la parole. Ce sont souvent ces gens-là qui sont les plus exposés à diluer, à changer un peu le message, à le rendre plus agréable, d'arrondir un peu les choses qui sont difficiles dans la parole. Voilà un tableau de Calvin. Calvin, lors de la réforme, s'est réfugié à Genève, donc il a travaillé là-bas. C'est difficile de travailler en France à l'époque. Et de là, il a mis sur pied une stratégie pour la France. Il a fondé une école de pasteurs pour former les pasteurs. Vraiment pour former les pasteurs qui étaient attachés à la parole authentique. Et ensuite, il a inondé la France de ses pasteurs. Il a envoyé ses pasteurs attachés à la parole. Imaginez si nous avions des églises évangéliques un peu partout en France, avec des anciens attachés à la saine doctrine. Imaginez qu'il y avait des églises évangéliques dans chaque quartier de la Garenne, de Nanterre, de Courbevoie et ailleurs, avec des anciens qui prêchaient chaque semaine fidèlement l'évangile et qui vivaient une vie qui était en adéquation aussi avec cet évangile. Je pense que ça changerait pas mal de choses. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. Et fin du verset 9, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. C'est clair, un ancien n'a pas tous les dons. On ne dit pas à titre de choisir des gens qui sont capables de mener des camps de jeunes ou de jouer à tous les instruments musicaux. Il ne demande pas à titre de chercher des gens qui seraient capables de gérer des églises comme des PDG d'une grande société du CAC 40. Il n'exige pas que ces anciens portent ou s'habillent d'une certaine manière. Il ne faut pas d'ailleurs qu'un ancien soit un orateur talentueux, éloquent ou branché. Il ne faut pas non plus qu'il fasse partie d'une famille ou d'un clan populaire de l'Église. On dit non, c'est pas ça l'essentiel. Mais plutôt qu'il soit quelqu'un dont la vie montre des fruits qui découlent de l'Évangile et qui sait enseigner cette bonne nouvelle de manière fidèle. Nous sommes maintenant à la dernière partie, dernier volet. Je veux que nous voyions que ces faux enseignants, donc Paul enchaîne en dénonçant quelques faux enseignants. Et ça, c'est un peu la partie négative. Donc, un ancien doit être capable d'encourager à prêcher l'Évangile aux chrétiens, mais aussi négativement de réfuter ceux qui s'opposent à cet enseignement. Je veux qu'on voit, donc verset 11 par exemple, que les faux enseignants qui sont là sur l'île de Crète sont caractérisés par une mauvaise conduite. Verset 11, ils veulent de l'argent, des gains honteux selon les versions. Et c'est pas surprenant que quelque part leur vie ne témoigne pas de l'Évangile parce qu'ils n'enseignent pas l'Évangile. C'est marqué, ils enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. Ils ne sont pas attachés à l'enseignement des apôtres. Verset 14, ils s'attachent à des fables juives. On va voir au chapitre 3 un petit peu plus ce que c'est tout ça. Et ensuite, ils s'attachent aussi à des commandements humains. Ils ajoutent des règles humaines à la foi. On sait de la première partie que c'est l'évangile de la foi, de la grâce, qui produit cette vie bonne, cette vie réussie aux yeux de Dieu, la vie qui plaît à Dieu, la vie pieuse. Mais la fausse doctrine, quelle qu'elle soit, finit par porter des fruits gâchés. Verset 16, à la fin, ces gens font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Le verset 15, c'est un verset un peu difficile, donc le verset juste avant. Mais en gros, ce verset nous dit que ces gens sont incapables de faire du bien parce qu'ils n'ont pas connu l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Leur intelligence et la conscience n'ont pas été touchées et renouvelées. C'est vrai qu'en 2000 ans, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de mauvais enseignements, beaucoup de faux enseignants qui ont séduit. Et à de multiples reprises, l'Évangile a été perverti. Il ne faut pas aller chercher dans l'histoire non plus, notre société n'en est pas préservée non plus. On sait qu'il y a des sectes partout. Et quand on pense aux mauvais enseignements, nos églises évangéliques ne sont pas indemnes non plus. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais une église, une secte sur Paris qui s'appelait l'église du Christ de Paris. Et cette secte s'est éclatée, donc elle s'est dissoute. Pourquoi ? Il y avait des abus de confiance, notamment financiers. Il y avait beaucoup de commandements humains. Il fallait suivre les formateurs, il fallait faire ceci, faire cela. Et finalement, il y avait beaucoup de gens qui étaient très blessés. Donc, beaucoup sont passés par l'église de la rue Sèvres, à Paris, par exemple, où j'étais à l'époque. La fausse doctrine finit par produire des fruits gâchés. Un enseignement qui peut avoir l'air biblique, ça peut être déguisé de beaucoup de manières. Mais il faut qu'on fasse attention aux fruits. Paul charge Tite de les reprendre sévèrement, verset 13, et de leur fermer la bouche. Pourquoi? Bah, il y va des maisons toutes entières qui étaient bouleversées par ces enseignements. C'est vrai que ce n'est pas facile de fermer la bouche à ceux qui enseignent l'erreur. La personne qui va essayer de faire ça va passer pour quelqu'un de borné, quelqu'un d'arrogant finalement, de négatif, d'hostile. Certes, il faut le faire d'une certaine manière, avec l'amour, il faut d'abord comprendre, écouter, avant de dénoncer. Il y a des manières de faire et de ne pas faire. Mais Paul dit, finalement, il faut qu'un ancien soit capable et qu'il soit prêt à le faire. Parce qu'il y va des maisons tout entières. Et l'ancien doit prendre soin aussi de ces familles-là. Alors, on va finir. Dieu veut que nous portions du fruit. C'est ça ce qu'il veut. Il veut des églises un peu partout en région parisienne où les gens vivent l'évangile de manière authentique, où il y a du vrai fruit, où il y a des vies qui honorent Dieu. Il veut voir des gens qui pratiquent des belles œuvres. On va voir un peu plus quelles sont ces belles œuvres, mais c'est déjà, il faut que ça soit exemplifié dans la vie d'un ancien. Cette nouvelle vie découle du message de la foi, de la bonne nouvelle. Ce message est porteur d'espoir, c'est un message qui régénère nos cœurs par l'esprit. Il faut qu'on reste attaché à cette parole, à cet enseignement. Et pour cela, ça veut dire que nos choix dans l'église des anciens, donc pensez à ça, ça va aussi se passer dans quelques semaines, dans quelques août, dans quelques semaines. Prions que nous ayons la sagesse. Et aussi, peut-être si vous êtes quelqu'un qui allait enseigner aussi dans l'église, ce passage, un passage clé qui informe, qui nous donne beaucoup d'informations et beaucoup d'encouragement et beaucoup de mise en garde. Donc prions pour ceux qui vont s'enseigner à l'église, qu'ils soient des responsables, des prédicateurs ou même des moniteurs de l'école du dimanche. C'est essentiel qu'il reste fidèlement attaché à cette parole si nous allons porter du fruit. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné une parole qui porte du fruit. Ce n'est pas une idéologie qui ne change rien. Ou une façon de penser qui nous conforte, mais qui ne change pas nos cœurs. Merci de ce que l'Évangile est quelque chose qui nous régénère, qui nous change, qui nous donne un espoir, et qui est vrai, Seigneur. Prions, Seigneur, pour nous tous, nous soyons des gens qui écoutent ta parole, qui la méditent, et qui la mettent en pratique. Prions, Seigneur, pour notre Église, dans les choix qu'elle a à faire dans les mois à venir, que tu nous donnes beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, que tu nous aides à choisir de manière, d'une manière qui est conforme à ta parole. Prions, Seigneur, que ce soit ta parole qui gouverne notre Église, que ce soit la parole du Christ. Nous prions finalement que tout cet enseignement, nous pensons au vendredi soir, au dimanche, au culte. Prions, Seigneur, que cet enseignement ne reste pas sans fruit, mais qu'il nous aide à vraiment mettre en pratique, à vraiment devenir des personnes qui t'aiment, qui respectent ta parole et qui aiment le prochain. Au nom de Jésus. Amen.